Comment se prépare la venue du Saint-Père au sanctuaire de Lourdes? L'abbé Baptiste Pochelu coordonne et prépare l'ensemble des liturgies du 26 et 27 septembre prochain. Il est interrogé par Anne-Rose Jankovic de Radio Présence Lourdes.
Bonjour Père Baptiste Pochelu.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous êtes également le cérémoniaire au sein de ce sanctuaire marial, un lieu important, un lieu qui s'apprête à accueillir le pape Léon XIV à la fin du mois de septembre. Et avec vous, on va voir un petit peu les coulisses, comment on prépare la venue du Saint-Père au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. D'abord, est-ce que vous pourriez, pour qu'on comprenne bien votre rôle et le rôle de la liturgie dans ces préparatifs, nous expliquer quelle est votre mission en tant que cérémoniaire et responsable de la liturgie au sanctuaire?
La venue du pape fin septembre a élargi, si vous voulez, un peu la mission qui est la mienne en temps habituel au sanctuaire. Quand cette venue s'est confirmée, Mgr Mika m'a tout de suite dit que ça serait à moi qu'il voulait confier la responsabilité de la liturgie pour la venue du pape ici au sanctuaire. Et donc, le rôle qui est le mien, c'est de coordonner en lien avec Rome et la Conférence des évêques de France, de coordonner et de préparer l'ensemble des liturgies que le Saint-Père va soit présider, soit va venir vivre aussi au sanctuaire. Le pape vient comme pèlerin au sanctuaire, il vient à la fois comme pèlerin parmi les pèlerins et aussi comme pasteur universel, et donc comme pèlerin parmi les pèlerins, il faut qu'à travers la liturgie, le Saint-Père puisse vivre ce que viennent vivre en temps habituel, en temps normal, n'importe quel pèlerin, n'importe quel fidèle ici auprès de Notre-Dame.
Ça veut dire que les temps forts liturgiques, ils seront les temps forts liturgiques qu'on a l'habitude de voir et de vivre à Lourdes.
C'est exactement ça. Dans une journée du pèlerin, on voit bien que c'est le passage à la grotte, une messe, la procession mariale, enfin voilà. Donc ça, c'est les trois temps forts liturgiques que l'on retrouve du pèlerinage du Saint-Père ici au sanctuaire. Et après, pour les pèlerins aussi, on a, on le sait bien, le chapelet à la grotte, la procession eucharistique, et puis différents temps qui peuvent être proposés comme la présentation du message de Lourdes. Mais quand même, quand on repense aux événements de la grotte de Massabielle, les 18 apparitions de la Vierge Marie, il y a cette visite à la grotte qui est le cœur de tout pèlerinage, la réponse à la demande de la Vierge Marie de venir ici en procession, et pour le Saint-Père ça sera de conduire et de vivre cette procession, et puis bien sûr l'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, comme le rappelle si bien le Concile Vatican II, et donc le pape qui, comme pasteur universel, présidera ici aussi cette grande messe sur la prairie.
Alors un pasteur et un pèlerin, pas comme les autres quand même, faut bien le dire. On va parler de tous les aspects un petit peu pratico-pratiques, les logistiques, parce que c'est intéressant aussi de voir peut-être le nombre de chasubles qu'il faut, etc. Mais d'abord une question sur l'équilibre à trouver, et sans doute que vous y travaillez, entre la liturgie à respecter, bien sûr, et puis les exigences du protocole pour recevoir un invité, un pasteur et un pèlerin, vraiment pas comme les autres.
Alors, deux choses qui ont conduit justement cet équilibre à trouver, la construction des liturgies au sanctuaire. Première chose, c'est j'ai été nommé ici au sanctuaire, Mgr Mika m'a donné comme maxime, je dis pas comme règle, mais comme maxime, le missel, tout le missel, rien que le missel. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, dans le cadre de la préparation des liturgies du Saint-Père en France, de manière générale, les différentes responsables liturgie des trois villes que le Saint-Père va visiter, nous nous sommes rendus à Rome pour avoir un temps de connaissance et de préparation des liturgies. Et effectivement, j'ai bien retrouvé cette maxime que Mgr Mika m'avait donnée, puisque dès qu'on essayait de réfléchir à des choses, on regardait la présentation générale du missel romain ou la présentation générale de la liturgie des heures pour savoir effectivement ce que l'on pouvait ou comment on pouvait adapter certaines choses pour être sûr que on ait une liturgie qui soit catholique dans le sens universel et qui n'est pas une espèce de liturgie papale papal qui pourrait servir ensuite de référence, enfin voilà, pour quelques inventions liturgiques, voilà. Et le Saint-Père, je crois, l'a rappelé dernièrement dans des catéchèses qu'il fait actuellement sur toute cette thématique de la liturgie, effectivement, comme quoi il fallait s'en tenir à ce qui avait été approuvé. Donc c'est ça qui conduit, ben voilà, toute la mise en place et l'imagination aussi, parce que le bureau des célébrations liturgiques du Saint-Père, voilà, donne un cadre général, et dans ce cadre général, on a la possibilité de se mouvoir quand même.
Voilà, donc ça, en fait, la ligne à suivre, c'est le missel, et c'est la même ligne, évidemment, pour tous les lieux où le Saint-Père passera lors de ce voyage apostolique en France, que ce soit à Metz ou à Paris, les consignes, la ligne à suivre sont les mêmes.
C'est exactement ça, c'est-à-dire de pas créer de précédent en se disant voilà, le pape l'a fait, donc moi aussi je peux le faire dans ma paroisse ou tel évêque, fait voilà. Donc c'est ça, c'est pas de ne pas créer de précédent et se dire que dans ce cadre général que le bureau des célébrations liturgiques du Saint-Père nous donne, ben voilà, on a un cadre qui est large, qui est précis et qui est large. Donc c'est-à-dire que on sait ce que l'on doit faire donc on sait qu'on peut piocher certaines choses et vraiment nous avons pour la liturgie des trois sites, on a pu arriver avec des idées, des propositions, et puis, eh bien, on a fini en discutant les uns avec les autres. Mais des choses simples aussi, de se dire, ben voilà, on reprend pas tel chant parce qu'il aura déjà eu lieu à Paris, ou on le laisse à Metz, voilà, des choses comme ça.
Le choix des chants, par exemple, ça vous revient pour les chants des liturgies ici au sanctuaire de Lourdes, c'est vous qui les décidé.
J'ai travaillé avec le maître de chapelle du sanctuaire, avec Isaïa Ravelli, pour que, chacun dans son domaine de compétences, on puisse donc trouver, les chants, et surtout par rapport au sanctuaire ici à Lourdes, on a quand même un patrimoine musical que je me permets de qualifier de centenaire, avec des compositeurs. Enfin, on peut penser au chanoine Lesbordes, au père Deschats, au frère Jean-Paul Léco, Isaïa maintenant. Donc il fallait puiser dans tout ce patrimoine musical qui fait l'identité de Lourdes, ou qui fait une partie de l'identité de Lourdes, pour pouvoir faire une proposition pour les chants qui seront utilisés pour la messe, pour la procession mariale et même pour le Templier à la grotte.
Est-ce que vous vous inspirez encore de ce qui s'est fait dans les récents voyages apostoliques du pape Léon XIV? Est-ce que ça, pour vous, ce sont des lieux d'exemple à suivre? Vous nous dites que on entend le travail avec Rome. Ça veut dire que depuis des semaines, vous rencontrez les responsables de la liturgie au Vatican pour préparer cet événement?
Alors, c'est sûr que pour pouvoir préparer les liturgies, avec Ruben, un jeune du service liturgie, on a pu prendre le temps de re-regarder notamment les messes de Madrid, de Barcelone, pour voir. Et quelque chose qui a été très important, c'est de calculer le temps que prend chaque geste liturgique. Voilà, parce que
la messe doit durer un certain temps et la messe est chronométrée.
Oui, on a un temps imparti pour la messe, et donc c'est de savoir, effectivement, l'agneau de Dieu, il a duré tant de temps à Barcelone, tant de temps à Madrid. Du coup, on fait une moyenne, et puis ensuite, ça permet d'essayer d'avoir un déroulé timé de la messe le plus précis possible pour être à peu près certain que la messe va rentrer dans le temps imparti. Donc ça, donc c'est vrai que là-dessus, les précédents voyages apostoliques ont été une aide. Quand on a été à Rome aussi, on a su nous dire les points à ne pas forcément copier ou imiter des voyages d'autres liturgies du voyage apostolique en Espagne ou ailleurs.
Comme quoi?
Alors, l'un des points qui, moi, m'a fait le plus sourire, le maître des célébrations liturgiques du Saint-Père, donc Monseigneur Ravelli, son cérémoniaire, de raconter le long voyage que le Saint-Père a fait en Afrique. Et la consigne qui est donnée, c'est il est bon que sur le podium où le pape célèbre la messe, il y ait une statue de la Vierge Marie, puisque généralement, enfin voilà, dans l'Église, il y a cette belle tradition de terminer la messe par une antienne mariale, par un chant à la Vierge Marie ou une prière à la Vierge Marie. La consigne, c'est on met la Vierge qui est vénérée localement, enfin voilà, mais il faut se rendre, enfin on sait que Notre-Dame de Lourdes est vénérée localement dans beaucoup d'endroits, et donc en Afrique elle s'est souvent retrouvée sur le podium liturgique, et donc Monseigneur Ravelli de dire enfin voilà ne mettez pas à Paris ou à Metz, ne mettez pas Notre-Dame de Lourdes. Et moi, de lui poser avec beaucoup de taquinerie la question, j'ai le droit moi de la mettre. Il m'a dit vous oui, mais pas les autres. Donc ça c'était des choses comme ça. Mais effectivement, à Notre-Dame de Paris ou au Stade de France ou Place de la Concorde, on imagine très bien que il y a la statue de Notre-Dame du Pilier, et puis il y a cette grande statue en argent offerte par le roi Charles X. Voilà, donc chaque lieu aura sa particularité. Donc voilà.
On va, avant de marquer une petite pause et d'attaquer sur les questions, comme je disais, un petit peu plus pratiques, pardon, j'insiste un peu sur cette question, protocole, comment les exigences du protocole ne prennent pas le dessus sur l'attention apportée à la liturgie, justement. C'est pas tout à fait la même chose.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un travail d'équilibre subtil. Donc il y a nous liturge tout le travail que l'on fait pour faire voilà le choix des oraisons, le choix des textes, le choix des chants, des mouvements liturgiques et tout ça. Et ensuite effectivement il y a le travail qui est fait en lien avec la sécurité. Et on l'a bien vu. Quand les responsables des voyages pontificaux sont venus ici au sanctuaire, on a reçu des indications, on a reçu voilà des choses comme ça, et avec eux il y avait la gendarmerie vaticane et la garde suisse. Donc on a vu certaines choses. Et ensuite, moi en parallèle de travailler par le biais de la CEF avec la liturgie du pape à Rome, et aussi il y a des discussions en interne à Rome où eux-mêmes discutent de certaines choses, et ensuite des choses comme ça qui redescendent. Mais effectivement, une chose est sûre, mais c'est peut-être mon prisme, enfin voilà, qui me fait voir la chose comme ça. La liturgie prime, voilà, et la sécurité s'organise autour. Pour ça, je pense juste, enfin voilà, à la procession mariale. Que fait le Saint-Père pendant la procession mariale? Est-ce qu'il processionne derrière la statue ou est-ce qu'il reste sur le parvis? Mais derrière, on comprend les questions de sécurité qu'il peut y avoir. Donc c'est voilà. Mais ensuite, en évaluant toutes les choses, le meilleur choix est posé.
On marque une pause, Père Baptiste Pochulu. On vous retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion. À tout de suite.
Programme spécial pour la venue du pape Léon XIV en France, en partenariat avec Radio Présence Lourdes. Vous pourrez suivre sur Radio Lapourdie des émissions spéciales, reportages, la retransmission en direct de la messe au sanctuaire de Lourdes le dimanche à 11h, du vendredi 25 au lundi 28 septembre, la venue du pape en France, 3 jours d'émissions spéciales sur Radio Lapourdie, en partenariat avec Radio Présence Lourdes.
Nous sommes toujours en compagnie du Père Baptiste Pochulu, responsable de la liturgie au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, cérémonière en ce lieu, qui s'apprête donc à recevoir à la fin du mois de septembre, à partir du samedi 26 septembre au soir jusqu'au lundi 28 septembre au petit matin, sa sainteté, le pape Léon XIV. Alors, vous nous avez offert, Père Baptiste, une vue d'ensemble de ce qui se prépare au niveau du service liturgie. On va maintenant attaquer des questions un petit peu pratico-pratiques, parce que l'ampleur des choses à préparer en termes de liturgie. Vous nous avez beaucoup parlé de la messe dans la première partie de cette interview. Alors justement, combien de personnes vous attendez pour la messe? Peut-être que d'abord, vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez une idée du nombre d'évêques, de prêtres, de séminaristes, de servants d'hôtel qui sont attendus pour cette messe?
Alors, comme le Saint-Père rencontre les évêques de la conférence des évêques de France juste avant la messe, on imagine bien, on imagine facilement que tous les évêques de France seront présents. Donc, ils sont à peu près 110. Et pour un tel événement, les évêques émérites vont venir également. Je sais aussi qu'il y a des évêques invités, par exemple les évêques frontaliers côté espagnol, des choses comme ça. Comme on a aussi des pèlerinages présents au sanctuaire pendant la visite du pape, on a aussi des évêques italiens qui seront présents. Donc, on peut avancer le chiffre de 180 ou de 200 évêques de manière assez sûre. Dans nos prospectives également, on avait imaginé la présence de 1500 prêtres, et les inscriptions qui avancent ces jours-ci montrent qu'on risque d'être véritablement dans ces clous-là.
Des prêtres principalement de la province ecclésiastique ?
Des prêtres, je pense qu'ils viennent du monde entier. Quand on voit les mails que l'on peut recevoir et à qui il faut renvoyer le lien d'inscription pour les prêtres, ça vient même de Colombie. Donc voilà.
Même démarche pour tous, les prêtres, évêques, tout le monde doit s'inscrire, tout le monde doit passer par là.
Tout le monde doit s'inscrire, tout le monde doit être accrédité. Donc c'est un travail assez important derrière, qui est centralisé au niveau national. Mais tout le monde, donc même ce prêtre colombien, hier j'ai appris qu'il y avait un prêtre allemand qui avait été inscrit. Enfin, voilà, donc la venue du Saint-Père et la messe présidée par le Saint-Père au sanctuaire attirent le monde entier, à l'image de ce qu'est le sanctuaire. Oui. Donc 200 évêques à peu près, 1500 prêtres. On a fait appel, en ayant discuté avec Monseigneur Mika, aux séminaristes du diocèse de Tarbes-Lourdes de manière prioritaire, mais aussi pour compléter le service liturgique aux séminaristes des séminaires de Toulouse et de Bayonne pour pouvoir assurer le service liturgique. Pour le faire, voilà, je pense à l'abbé Corentin Laguens qui sera ordonné quelques jours avant, qui pourra proclamer l'évangile à cette messe pontificale. Enfin, voilà, donc c'est tout ce personnel là qui est sollicité, qui est attendu pour cette messe, plus ensuite les nombreux fidèles qui viendront. Alors j'imagine que dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, beaucoup de gens vont se mobiliser pour venir grâce à tout ce qui est mis en place par les paroisses. Je sais aussi que dans mon diocèse d'origine à Bayonne, la réponse et l'engouement sont forts et très grands pour pouvoir participer au moins à la messe que le pape présidera.
Donc cette messe, elle sera célébrée par le pape Léon XIV à 11h le dimanche 27 septembre, le matin, dans la prairie. C'est un lieu qui n'est pas habituel pour célébrer des messes. Comment on transforme une prairie en un lieu de célébration ?
Alors, la prairie a déjà servi pour la célébration de la messe, je crois en 83, et en 2008, pour la messe dominicale. En 2004, quand Jean-Paul II était venu pour son dernier pèlerinage, et qu'il avait choisi Lourdes pour ce dernier pèlerinage, effectivement, la messe avait été célébrée, comme le 15 août, au podium de la prairie. Donc, les messes en extérieur au sanctuaire, effectivement, c'est quelque chose de plutôt exceptionnel. On a celle du 15 août, que tout le monde connaît, je crois. Il y a certains pèlerinages qui ont l'habitude de célébrer sur l'esplanade aussi. Je pense particulièrement au diocèse de Lille ou au pèlerinage du Rosaire qui ont ces habitudes-là. Mais c'est vrai que pour le sanctuaire, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et quand on regarde la configuration de la prairie, on voit qu'elle a été imaginée un peu comme un amphithéâtre. Mmh. Et donc, je me souviens de quand Rome est venu pour visiter le sanctuaire. Voilà, quelqu'un a dit, on voit bien que ça a été imaginé pour ça. Et la nature fait que il y a un point central qui est aujourd'hui la tente des jeunes, et donc la prairie est à peu près organisée d'elle-même. Par contre, il faut effectivement construire un podium sur lequel on va installer un hôtel, un ambon, le siège de présidence, les évêques, et puis organiser la prairie pour que la papa mobile puisse faire le tour au milieu des pèlerins. Ça, je crois, après la célébration de la messe elle-même l'autre chose très importante et très attendue des fidèles. Et puis aussi, ben, derrière, il y a des questions de sécurité. Donc, tout organiser pour que les pèlerins soient en sécurité et que tous puissent participer et vivre un moment de grâce.
Donc, il faut que ce soit pratique, sécurite et puis beau, puisqu'il s'agit quand même de liturgie.
Exactement. Et Rome a l'œil sur tout.
Y compris sur la manière dont vous allez construire cette estrade et l'hôtel sur l'estrade.
Tout à fait. Dans les indications qu'on reçoit, donc on nous partage les différentes dimensions, que ce soit de l'hôtel, du siège de présidence, de la chasuble, de la mitre du Saint-Père, voilà. Mais également Rome, que ce soit la liturgie ou on peut le comprendre, hein, le service communication demande à pouvoir connaître un peu ce qui est prévu pour le podium, ben, pour être sûr que l'espace liturgique soit facile et agréable, pour le dire comme ça, mais que d'un point de vue communication, pour tout ce qui est captation vidéo, ben il n'y ait pas un pilier en plein milieu de l'hôtel qui empêcherait, qui empêcherait de voir le pape. Donc Rome est attentif à tous les points de détail.
Alors, est-ce qu'on peut parler de des questions d'ornement, et d'habits liturgiques? Vous nous avez parlé de centaines de prêtres, donc il faut habiller tout ce monde-là.
Il faut habiller tout ce monde-là et le sanctuaire, qui a quand même une certaine habitude d'un point de vue de la liturgie, pour avoir de grandes célébrations liturgiques. On l'a encore vu le 15 août, où on peut penser au 11 février. On a de la chance, nous avons des sacristies qui sont déjà bien fournies en ornement liturgique. Voilà.
C'est le sanctuaire qui fournit pour tout le monde.
Alors, le sanctuaire fournit une grande partie. Il a été décidé au niveau national que les prêtres auraient une étole nationale. Voilà. Donc, même ici au sanctuaire, les prêtres auront une étole, ce qui permet d'avoir une certaine unité pour les prêtres. Et cette étole nationale, elle s'inspire de la chasuble qui va être réalisée pour Paris, mais il y avait des éléments qui pouvaient être repris pour nous, la chasuble que l'on réalise pour le pape.
Parce que le Saint-Père ne débarque pas avec ses ornements liturgiques et ses habits liturgiques.
Alors, si on fait la demande, il peut venir, mais si on propose quelque chose, Rome accepte, après avoir validé, bien sûr. Donc nous, on a fait les trois lieux, que ce soit Paris, Metz ou Lourdes, les trois lieux ont fait le choix de proposer une chasuble pour le Saint-Père, ce qui permet de garder en souvenir du passage du Saint-Père. Donc nous, au sanctuaire, on réalise donc la chasuble du Saint-Père, les dalmatiques pour les diacres, quelques chasubles aussi pour les évêques concélébrants principaux. Et ensuite, c'est tout le patrimoine de paramantique liturgique que nous avons déjà dans les sacristies qui servira pour pouvoir habiller les évêques, surtout avec une chasuble verte, parce que nous avons gardé la couleur liturgique verte pour la messe du dimanche.
Donc ce qui doit être confectionné d'ici le 27 septembre, d'ici le 26 septembre, est confectionné ici même au sanctuaire de Lourdes. Il y a un atelier avec des personnes qui travaillent pour ça.
On est gâté au sanctuaire puisqu'on a peut-être l'un des derniers ouvroirs liturgiques de France avec Sœur Martha, une religieuse mexicaine qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir réaliser effectivement la chasuble du pape, la mitre, les dalmatiques pour les quatre diacres et puis quelques chasubles supplémentaires pour les principaux évêques qui entoureront le pape autour de l'autel.
On a le droit de savoir comment sera la chasuble, peut-être la couleur liturgique?
Alors oui, on célébrera, c'est un dimanche du temps ordinaire, donc on a gardé la couleur liturgique verte, voilà, et la chasuble sera belle.
Voilà, donc ça c'est le secret. Il faut venir le 27 septembre pour voir cette chasuble. Alors, on parle de la messe, mais c'est pas le seul moment liturgique. Il faut pas oublier ça. Vous nous l'avez dit en première partie. Le pape vient comme pèlerin, aussi comme pasteur, mais comme pèlerin. Donc il y a le passage à la grotte. Il y a aussi la veillée mariale le dimanche soir. Là aussi, on imagine que ce sont pour vous des temps forts liturgiques qu'il faut préparer, soigner, anticiper.
Effectivement, le premier geste que pose le pape en venant comme pèlerin, c'est de passer à la grotte. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de fondamental que le Saint-Père, dès qu'il arrive, se rende à la grotte. Oui. C'est Bernadette le 11 février 1858 et ensuite, pour les 17 autres apparitions, c'est n'importe quel pèlerin qui arrive à Lourdes, après avoir certainement déposé son bagage à l'hôtel, c'est d'aller à la grotte pour un temps de prière. Donc on a ça. Mais comme c'est un temps de prière qui aura du monde dans le sanctuaire, il y a besoin effectivement de construire liturgiquement ce temps-là, donc avec le Saint-Père qui posera les gestes du pèlerin à la grotte, toucher le rocher, boire à la source et déposer en cierge.
Voilà, donc ça, ce sont des moments aussi que vous préparez. Et puis, il y a la veillée au flambeau le dimanche soir.
Le dimanche soir, et donc, on a une trame. Donc, on ne va pas réinventer ce que l'on vit déjà au sanctuaire. On a gardé cette trame et on l'a adaptée aux différentes contraintes de temps et de choses comme ça. Mais aussi, on l'a adaptée pour que ce qui se vit puisse permettre au pape de faire l'expérience de cette procession Marielle qui est connue de beaucoup de fidèles de l'Église, et derrière effectivement il faut pour une procession comme certainement bon nombre d'auditeurs peuvent la connaître, il faut des porteurs pour la statue, il faut des porteurs pour les lumières.
Comment ils sont choisis, comment ces personnes-là sont choisies justement?
Alors ils sont choisis par rapport à l'identité de Lourdes.
C'est-à-dire
alors Lourdes est insérée dans un diocèse, qui est le diocèse de Tarbes-Lourdes, donc avec une réalité diocésaine et des forces vives au niveau diocésain. Lourdes, on sait aussi l'importance et la première place qui est donnée à toutes les formes de précarité, de maladie, des choses comme ça. Et c'est ces éléments-là qui ont permis que je fasse des propositions à Monseigneur Mika et au père Dauban pour qu'on puisse solliciter des personnes pour pouvoir être qui portait la croix, qui portait les lumières ou qui portait la statue de la Vierge Marie dans cette procession mariale.
Voilà, un événement extraordinaire, mais une chose qui ne change pas, c'est que les personnes malades auront la première place évidemment pour cet événement, pour l'avenue du pape Léon XIV à Lourdes. Ça, c'est quelque chose qui ne changera pas.
C'est un fil rouge pour toutes les liturgies et notamment à la procession mariale.
On arrive bientôt au terme de cet entretien, Père Baptiste Pochulu. Est-ce que vous serez prêt? Vous nous avez parlé des ornements, vous nous avez parlé du protocole, des chants, de tout un tas de choses auxquelles il faut veiller, qu'il faut anticiper, qu'il faut préparer. C'est dans un mois, le pape Léon XIV sera là. Tout va bien, vous serez prêt?
Tout va très bien et je crois effectivement que l'on sera prêt. Maintenant que le 15 août est passé, on est vraiment lancé dans la dernière ligne droite pour l'accueil du pape. Alors au sanctuaire, il faut quand même continuer à faire vivre le sanctuaire et assurer la saison qui est en cours. Donc c'est sûr que ça rajoute un emploi du temps déjà bien occupé. Ça rajoute de l'occupation, mais ça n'empêche que les choses avancent. Elles avancent bien et donc elles me permettent d'être tout à fait en confiance pour être prêt à la date fatidique.
Merci beaucoup, Père Baptiste Bouchulu. Bon préparatif, bon courage et puis merci beaucoup.
Merci Anne-Rose, à bientôt.
Programme spécial pour la venue du pape Léon XIV en France. En partenariat avec Radio Présence Lourdes, vous pourrez suivre sur Radio Lapourdie des émissions spéciales, reportages, la retransmission en direct de la messe au sanctuaire de Lourdes le dimanche à 11h, du vendredi 25 au lundi 28 septembre, la venue du pape en France, 3 jours d'émissions spéciales sur Radio Lapourdie, en partenariat avec Radio Présence Lourdes.